Pour ouvrir cette série d'interventions, je propose de revenir d'abord sur un événement médiatique qui a marqué l'année lorsque, en février 2020, Adèle Hanel a quitté la cérémonie des Césars de manière tout à fait remarquable au moment où elle a appris que Roman Polanski obtenait le César du meilleur réalisateur. Au moment de sortir, elle s'est exclamée « La honte, la honte !»
Alors, la honte dont il était question ici est un sentiment qu'elle prescrivait en guise de sanction aux jurés pour leur complaisance, pour leur lâcheté politique et en fait ce qu'on peut appeler leur masculinisme inébranlable. Alors, ce qu'elle affirme en disant la honte, c'est que la honte s'abiète sur eux, qu'ils reçoivent en châtiment la désapprobation du public et de leur conscience pour avoir transgressé comme une norme morale qui, en 2020, est devenue suffisamment puissante, évidente et partagée pour que, face à une telle transgression, ils soient déshonorés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a suivi ensuite une tribune, la tribune de Virginie Despentes. Et dans cette tribune, Virginie Despentes s'adresse également à ses jurés et elle leur lance « Vous n'avez décidément honte de rien ». Alors cette fois, ces jurés sont déclarés sans vergogne, privés de sens moral, qui leur permettrait de discerner le bien du mal et donc d'être avertis du fait que leur transgression par rapport aux normes et au souci de représentation des femmes aujourd'hui est une transgression infamante dont ils n'ont pas accès puisqu'ils sont privés du sens de la honte. Donc entre ces deux usages du même terme, à la fois chez Adèle Hanel et chez Virginie Despentes, on voit que ce terme « honte » peut désigner, en fait, peut avoir deux usages vraiment très distincts, puisqu'ils sont à la fois privés de la honte qui est un sens moral et qu'ils devraient être humiliés publiquement par la honte en raison de cette erreur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que récemment, lundi dernier, Adèle Hanel était l'invitée d'Augustin Trapenard et venait parler de son film qui est sorti mercredi. Très vite, l'échange a bien sûr porté sur cette scène mémorable qui a été très fortement médiatisée. Et la question d'Augustin Trapenard était la suivante, avec le recul, à quoi tout cela a-t-il servi? Alors la réponse d'Adèle Hanel était celle-ci. Ça a donné des images à des gens qui finalement en manquent. Ça fait chaud au cœur à beaucoup de militantes et de militants. Ça participe à la dynamique de soulèvement. Alors, je vais revenir sur cette phrase qui me semble intéressante pour notre journée d'études, puisque pour le premier point qui dit « donner des images à des gens qui finalement… » c'est que le cinéma est un lieu politique. Elle l'explique très bien d'ailleurs peu de temps après, puisqu'elle précise « Le cinéma est politique car il propose une grille de lecture du monde et il est d'autant plus politique qu'il remet en question cette grille de lecture du monde sédimentisée par des dizaines d'années de construction de l'image. » Le deuxième point intéressant également, celui qui dit que cela fait chaud au cœur à beaucoup de militantes et de militants, puisque ça participe à la dynamique de soulèvement, m'intéresse aussi, puisque là, il s'agit de souligner que l'action individuelle de l'actrice Adèle Hanel, en fait, a pour fonction aussi également, ou pour vertu, d'encourager le travail militant, et qu'elle considère finalement la production d'images médiatiques, non pas comme une action directe, mais comme un support, qui apparaît comme secondaire, en arrière-plan, mais qui est néanmoins absolument essentiel pour soutenir l'action individuelle. Donc le collectif apparaît comme une source d'énergie pour favoriser le travail militant. Alors, bon, les liens avec la journée réparer la honte s'imposent, mais je souhaiterais quand même les expliciter. Premier lien, c'est évidemment la complexité de la notion de honte. Alors, de toute évidence, cette complexité, elle repose sur sa polysémie, puisque la notion de honte, donc c'est d'abord un sentiment qui anticipe la condamnation publique d'un acte à venir. C'est en somme une honte d'avant la honte, une honte d'anticipation. On a honte de ce qu'on suppose que notre action pourrait produire. On peut aussi appeler ça la pudeur ou la vergogne. Mais la honte, c'est aussi un sentiment qui suit la faute, qui vient après la faute ou la transgression, ce qui est jugé comme tel. Et là, c'est plutôt une honte de châtiment ou une honte d'humiliation. Honte de châtiment si ce point de vue est partagé par le groupe, honte d'humiliation s'il est intériorisé par l'individu. Puis la honte, c'est aussi la honte du déshonneur, qui est le regard social jeté sur celui qui est marginal et inférieur, ou encore le mépris de soi, qui n'est pas nécessairement partagé. Donc cette polysémie de la notion de honte, elle est très forte, mais elle est encore renforcée parce que dans l'histoire des champs disciplinaires en sciences humaines et sociales, chaque champ disciplinaire a abordé cette notion à partir de ses propres problématiques de recherche et de ses propres enjeux. Donc par exemple, le discours en psychologie et puis en psychanalyse plus particulièrement n'a pas abordé la honte en tant que telle dans un premier temps, mais s'est plutôt concentré sur la culpabilité. Donc c'est la notion de culpabilité au départ qui est traitée par Freud dans « Malaise dans la civilisation ». En fait, cet ouvrage laïcise le concept chrétien de culpabilité et montre que en fait, cette culpabilité, aussi douloureuse soit-elle, a pour vertu qu'elle canalise l'agressivité et qu'elle peut participer à la civilisation. Donc du point de vue freudien, la honte, c'est une blessure individuelle à vertu collective. Mais ensuite, dans la psychologie, la honte s'ajoute à ce concept, est mise en relation avec ce concept. Et en fait, globalement aujourd'hui, lorsqu'on lit les discours psychologiques, donc dans ce champ, se distingue une honte qui serait archaïque, infantile, et qui parfois pourrait créer des traumatismes, et une culpabilité qui, elle, serait plutôt favorable à l'émancipation des individus et signe de responsabilisation. Alors, de manière tout à fait remarquable ou en tout cas historiquement fondatrice, ce concept en psychologie a été transvasé ensuite en sociologie et en histoire par un chercheur qui s'appelle Norbert Elias, qui considère qu'en fait cette distinction entre honte et culpabilité à l'échelle individuelle, elle vaut aussi à l'échelle collective et que les civilisations s'émancipent quand elles passent des civilisations de honte aux civilisations de culpabilité. Bon, c'est très contesté tout ça aujourd'hui. On pourrait aussi s'intéresser au fait que le discours en anthropologie, lui, ne traite pas le binôme honte et culpabilité, mais honte et honneur. Et en philosophie, en sociologie, ce n'est ni l'un ni l'autre, ce sera plutôt mépris et reconnaissance. Donc, on voit qu'il y a une pluralité considérable dans le vocabulaire et une pluralité aussi de perspectives à partir duquel c'est un point évidemment qui pose des difficultés dans l'abord de ce sentiment dans nos travaux. Par ailleurs, ce qui est pertinent dans cet exemple d'Adèle Hanel, c'est également le fait que lorsqu'elle prend la parole en considérant l'événement factuel de février 2020 comme une image, qui aurait apporté du sens pour les personnes qui y assistent. En fait, elle traite un fait comme une représentation. La scène de la sortie des Césars est considérée comme par des catégories esthétiques. Son effet est de déplacer des cadres d'interprétation du monde et d'ouvrir la possibilité d'une nouvelle réaction au sexisme. Donc, ce qu'elle met en avant, c'est la performativité des arts et des médias. Et donc, c'est vraiment très lié à l'objet de notre journée d'études. Et puis, dernier point, ce qu'elle soutient, c'est évidemment le rôle des arts et des médias dans la lutte pour la reconnaissance. Alors, la lutte pour la reconnaissance, on l'avait mis en avant dans l'appel auquel les intervenants d'aujourd'hui ont bien voulu répondre et se sont intéressés. Donc, pour rappeler brièvement ce que signifie ce terme, lutte pour la reconnaissance, en fait, il s'agit d'un concept qui a été médiatisé par Axel Honneth, philosophe et sociologue, qui montre que généralement, lorsqu'on parle de lutte sociale, on en parle comme d'une lutte pour s'approprier les biens, une lutte pour entrer dans la concurrence, dans la répartition des ressources. Et lui, il ajoute le fait que la lutte sociale, ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi une lutte pour la reconnaissance, c'est-à-dire pour instaurer des conditions d'intégrité personnelle. Donc autrement dit, la lutte sociale devient ici une expérience individuelle de mépris qui passe à l'échelle collective et qui permet ensuite de guérir ce mépris vécu de manière individuelle. Le travail collectif permet donc d'éclairer les causes sociales qui sont responsables des blessures personnelles et d'aider l'individu à sortir de la paralysie qui résulte de l'humiliation. De ce point de vue, les médias et les arts lui apparaissent comme ayant un rôle à la fois moral ou éthique et politique. Dans son ouvrage, il précise de manière explicite que sa théorisation de la lutte pour la reconnaissance suppose qu'il existe un travail important pour établir ce qu'il appelle des passerelles sémantiques ou une sémantique collective. Il s'agit de fournir au sentiment d'injustice, qui est une expérience individuelle, un langage commun. Autrement dit, se mettre d'accord sur les mots, les scénarios prototypiques ou les causalités. Et c'est donc cela que l'étude de la littérature, des arts et des médias nous permet d'examiner. Alors, c'est ce que feront donc les quatre panels de la journée. On commencera par un premier panel à 10h. On est bien au niveau du timing, ça me réjouit. Un premier panel à 10h donc, qui sera présenté par Claire Salles, qui portera sur les violences sexistes et sexuelles. À 11h30, qui est le deuxième de cette journée, à 11h30, donc, on passera aux vulnérabilités politiques, qui sera un panel animé par Héloïse et Priscilla. Et il sera cette fois question des hontes éprouvées par des individus qui ont en commun d'avoir été privés de parole et de représentation, que ce soit dans les banlieues défavorisées ou bien pour les sex workers qui sont les travailleurs et les travailleuses du sexe, ou encore pour les victimes de discrimination raciale dans le conflit péruvien. Le troisième rendez-vous à 14h portera sur le thème « Réintégrer le monde » et sera animé par Myriam et Marie qui donc animeront ce panel où deux interventions questionneront le rapport au corps et à la mort en s'intéressant aux cas de personnes vieillissantes placées en institution et marginalisées, ainsi qu'aux cas de personnes qui ont quitté le monde en faisant le choix du suicide. Donc, il s'agira de se demander en fait comment le théâtre et la littérature leur permet de rester ou de réintégrer le monde.
Enfin, à 15h30, nous entendrons deux interventions sur honte et culpabilité dans un panel qui sera animé par Eve. Ces deux interventions ont en commun qu'elles portent sur la culpabilité du condamné, l'un par le jugement des tribunaux et l'autre par le jugement de l'opinion publique. Il s'agira en fait de se demander comment l'écriture permet de sortir de la honte et de la culpabilité.